Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chaire questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons avoir aujourd'hui deux leçons à nouveau. La première qui s'intitule, comme vous le voyez, « Extension de la peine » et la seconde qui a pour titre « Reproduction de l'inégalité ». Ce sont deux sujets qui sont distincts, mais qui évidemment qui se répondent en partie l'un avec l'autre, comme vous le verrez. Et puis dans la partie séminaire, j'ai le grand plaisir, c'est un honneur aussi, de recevoir Dominique Simoneau, qui est contrôleur général des lieux de privation de liberté, et qui viendra donc vous parler de son expérience, partager avec vous ses réflexions dans cette fonction qu'elle occupe depuis 2020, je crois. Voilà, je la présenterai mieux tout à l'heure. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont lu des choses qu'elle a écrites, puisqu'elle avait été journaliste avant d'occuper cette fonction. Mais bien entendu, je vous invite à rester après les deux heures des leçons pour bénéficier de son intervention. Contre l'idée de définir la peine, tâche que se sont donnée fort légitimement philosophes et juristes, j'ai essayé jusqu'à présent de circonscrire le châtiment. Donc le châtiment plutôt que la peine, pour prendre la mesure des pratiques punitives au-delà de leur seule forme légale, qu'il s'agisse de celle des parents sur leurs enfants ou des policiers à l'encontre des classes populaires, et circonscrire plutôt que définir également, de manière à rendre compte de ce qui est et non de ce qui devrait être, y compris dans le recours à des pratiques punitives à l'encontre de personnes réputées innocentes, puisqu'elles n'ayant pas été jugées ou même ne devant pas l'être. C'est ce que nous avons vu lors des séances précédentes. Autrement dit, il s'agissait de bousculer ce que nous croyons savoir de la faculté de punir, de montrer aussi que les choses changent avec le temps, par exemple qu'on n'autorise plus les punitions corporelles dans de nombreuses sociétés qui pourtant n'ont jamais été si répressives dans leur histoire moderne, et qu'elles varient selon les lieux également. Par exemple, dans certains pays, on enferme pour des durées indéfinies des victimes de persécutions qui demandent l'asile, quand dans d'autres, on ouvre des centres d'accueil pour certaines d'entre elles. Ayant par conséquent circonscrit dans une certaine mesure le châtiment, je voudrais maintenant m'attacher à ce qu'on peut appeler l'extension de la peine. Par cette expression, je n'entends pas le fait que de nouvelles sanctions aient été ajoutées au fil du temps et que des sanctions plus lourdes soient administrées, phénomènes qui sont importants et dont j'ai indiqué qu'ils expliquaient pour une large part l'augmentation de la population carcérale depuis un demi-siècle, un peu plus. Dans ce cas, il faudrait parler d'extension des peines. Mais je m'intéresse ici plutôt à la manière dont la peine, d'un côté, frappe ce qu'elle punit bien plus profondément qu'elle n'est censée le faire, et de l'autre, affecte ce qu'elle n'est pas censée punir, bien au-delà de ce qui est légitime. Il s'agit donc d'appréhender cette extension de la peine à la fois dans une dimension que l'on pourrait dire verticale, la profondeur de l'affliction, et horizontale, l'élargissement du cercle des affligés. Pour ce faire, je m'attacherai à ce qu'on peut appeler la peine par excellence dans le monde contemporain, à savoir, vous en doutez, la peine d'emprisonnement, et j'analyserai d'une part comment, pour celles et ceux qui la subissent, l'incarcération est bien plus que la simple privation de liberté, et d'autre part, comment pour celles et ceux qui leur sont proches, une sorte d'autre enfermement est à l'œuvre. Et cette analyse, je la conduirai en m'appuyant à la fois sur mon enquête en maison d'arrêt en France et sur les recherches conduites par des sociologues, des anthropologues dans d'autres pays, en particulier les États-Unis. Mais avant de m'y engager, je ferai un détour par l'œuvre d'un philosophe et juriste italien du XVIIIe siècle qui a eu une influence considérable sur le développement de la prison et de la peine d'emprisonnement, bien que tant l'une que l'autre aient suivi une voie qu'il n'avait ni anticipée ni souhaitée. Il s'agit, comme vous vous en doutez, de Cesare Beccaria. C'est en 1764, à l'âge de 26 ans, que Cesare Beccaria publie « De delitti e delle pene ». L'année suivante, le livre est traduit en français sous le titre littéral « Des délits et des peines ». Puis en allemand, en anglais, en suédois, en polonais, en espagnol. C'est dire l'intérêt de toute l'Europe intellectuelle de son temps pour une pensée étonnamment réformatrice qui séduit autant les philosophes que les gouvernants par sa clarté et son originalité. Lorsque paraît le livre, le droit pénal demeure l'héritier du droit criminel de la Renaissance, inquisitorial et répressif, qui lui-même reprend à travers des commentaires savants la compilation du droit romain réalisée sous l'empereur Justinien au VIe siècle. C'est donc contre ce code informe que le jeune philosophe italien veut édifier sa réforme. Et cette réforme, il l'inscrit sous le double signe, je le cite, « des droits du genre humain et de l'invincible vérité ». La philosophie générale en est énoncée dans le 42e chapitre, qui en est en fait la conclusion. Je cite « Pour qu'une peine ne soit pas un acte de violence contre un citoyen, elle doit être essentiellement publique, prompte, nécessaire, la moindre des peines applicables dans les circonstances données, proportionnée au délit et déterminée par la loi. » Donc à l'arbitraire, la lenteur, la contingence et la sévérité de l'appareil judiciaire, au caractère disproportionné et discrétionnaire de la peine, à l'injustice en somme de la justice, Cesare Beccaria oppose un nouveau paradigme rationnel et utilitariste. Il faut rappeler ici les deux formes principales de justification théorique du châtiment dont j'ai déjà parlé. On peut premièrement décider de punir une personne sur la seule base de l'infraction commise. C'est la justice rétributive, qui repose sur trois principes moraux généraux. L'auteur d'un acte réprouvé par la société doit être puni. Il doit l'être par un agent légitime à infliger cette punition. Et il doit l'être de manière proportionnée à son acte. Autrement dit, le châtiment s'impose, quelles qu'en soient les conséquences pour la société, car le criminel ou le délinquant doit être sanctionné. On parle en anglais de « just deserts », c'est-à-dire que le coupable mérite d'être puni et qu'il doit l'être de manière juste. Dans la philosophie classique, Emmanuel Kant est le représentant archétypal du rétributivisme. Pour lui, la seule justification du châtiment, c'est la culpabilité de l'auteur de la violation de la loi, et il faut une égalité de gravité entre l'infraction et sa sanction, ce qui implique, par exemple, la peine de mort pour le meurtrier. Mais on peut aussi, deuxièmement, décider de punir une personne pour le bien public. C'est la justice utilitariste qui repose sur un syllogisme. Une action est bonne si elle contribue à accroître le bonheur dans la société. Les châtiments sont toujours mauvais car ils sont source de souffrance. Et donc, on ne peut infliger une punition que si elle permet d'écarter un plus grand mal. Et concrètement, le châtiment ne s'impose que pour autant qu'il réduise la criminalité et la délinquance. Cette théorie est également qualifiée de conséquentialiste, car elle décide si un acte est moral en fonction de ses conséquences. Dans le cas de la peine d'emprisonnement, elle se réalise de trois manières. Neutralisation du coupable, qui ne commet évidemment pas de nouvelle infraction tant qu'il est incarcéré. Réinsertion du condamné, qui manifeste une volonté de réforme de soi. Et dissuasion, qui est supposée éviter à la fois que l'auteur ne récidive et que le public ne soit tenté de commettre un acte délictueux. Dans la philosophie classique, Jeremy Bentham est le défenseur paradigmatique de l'utilitarisme. Selon lui, l'objectif principal de la punition est d'être dissuasive pour la société dont les membres peuvent mesurer le prix à payer s'ils commettent un crime ou un délit. En somme, on peut dire que les rétributivistes regardent vers le passé pour ne juger que l'acte commis et la culpabilité de l'auteur, tandis que les utilitaristes se tournent vers le futur pour ne considérer que les effets sur la société dans son ensemble. Pour Cesare Beccaria, les choses sont claires. Il rejette l'argumentaire rétributiviste. Je le cite, « Les cris d'un malheureux dans les tourments peuvent-ils retirer au sein du passé, qui ne revient plus, une action déjà commise ?» Au contraire, il plaide pour la justification utilitariste. Et je le cite encore, « Les châtiments n'ont pour but que d'empêcher le coupable de nuire désormais à la société et de détourner ses concitoyens de la voie du crime. » Et il faut souligner que son traité précède les thèses de Kant et inspire celles de Bentham. Il est donc assurément un précurseur. Mais comment, selon lui, fonder la légitimité du châtiment ? Je le cite, « C'est la nécessité seule qui a contraint les hommes à céder une partie de leur liberté, d'où il suit que chacun n'a voulu mettre dans le dépôt commun que la plus petite portion possible, c'est-à-dire précisément ce qu'il en fallait pour engager les autres à le maintenir dans la possession du reste. » L'assemblage de toutes ces petites proportions de liberté est le fondement du droit de punir. Tel est donc le contrat social qui autorise qu'on exerce une violence et impose une souffrance à des individus qui ont violé la loi régissant les rapports humains. Et l'auteur ajoute « Tout exercice du pouvoir qui s'écarte de cette base est abus et non justice. » Et encore, « Tout châtiment est inique aussitôt qu'il n'est pas nécessaire à la conservation du dépôt de la liberté publique. » De ce fondement découlent plusieurs faits. Premièrement, seules les lois produites par le souverain peuvent fixer les peines pour chaque délit. Et le rôle du magistrat est simplement d'établir qu'il y a délit et dans ce cas, d'infliger une peine conformément à ces lois sans l'augmenter. Ce double principe vise à assurer la légalité du châtiment et l'équité de sa distribution. D'une part, le juge ne doit pas s'écarter de ce qui est prescrit, c'est la légalité, et d'autre part, des juges différents doivent être en mesure de décider la même sanction, c'est l'équité. Deuxièmement, les peines doivent être les moins cruelles possibles pour le coupable, tout en étant efficaces dans l'esprit du public. Ce second double principe atteste le caractère rationnel et utilitariste de la politique pénale. D'un côté, une peine trop dure risque d'inciter le coupable à commettre de nouveaux forfaits pour éviter de se faire prendre, c'est la rationalité. Et de l'autre, l'impression faite sur le public doit avoir une fonction dissuasive, c'est l'utilitarisme. Tels sont donc ce qu'on pourrait appeler les quatre points cardinaux de la philosophie pénale de Cesare Beccaria. Inscrire la peine dans un cadre légal et l'appliquer de manière équitable, ne pas abuser du pouvoir de punir et faire prévaloir la prévention du crime sur sa sanction. D'où cette formule célèbre qui en est la traduction concrète, ce n'est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c'est la certitude du châtiment, le zèle vigilant du magistrat. Et cette sévérité inflexible n'est une vertu que lorsque les lois sont douces. Dès lors, pour lui, ni les pardons des citoyens, ni les grâces du souverain ne sont souhaitables puisqu'ils se font au détriment de la sécurité publique. Au regard de l'ensemble de ces principes, comment pratiquement établir les modalités du châtiment ? Premièrement, une série de peines doivent être évitées. Les punitions infamantes sont généralement néfastes. Les confiscations de biens sont injustes car elles affectent aussi la famille du coupable. Quant à la peine de mort, elle n'est jamais justifiée car elle n'est appuyée sur aucun droit et n'a jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire. Je cite. Il faut donc lui substituer une peine de privation de liberté, éventuellement définitive, au nom, là encore, de la capacité à détourner du crime ceux qui verraient ainsi dans la durée la menace qui pèse sur eux. Je cite, « L'esclavage perpétuel substitué à la peine de mort observe, et donc il s'agit de l'emprisonnement, a toute la rigueur qu'il faut pour éloigner du crime l'esprit le plus déterminé. » Deuxièmement, les peines doivent être proportionnées au délit, et la mesure de ces derniers ne doit être appréciée ni en fonction de l'intention de celui qui les commet, car il faudrait dans ce cas avoir, je cite, non seulement un code particulier pour chaque citoyen, mais une nouvelle loi pénale pour chaque crime. Et ce, bien qu'on puisse penser que, en fonction de distinctions d'honneur et de richesse, et ce, bien qu'on puisse penser que, je le cite encore, la même peine décernée contre le noble et contre le roturier devient tout à fait différente et plus grave pour le premier, à cause de l'éducation qu'il a reçue et de l'infamie qui se répand sur une famille illustre. Plutôt donc que l'intention ou la distinction, le seul instrument de mesure qu'on doit utiliser pour décider de la juste peine, c'est, dit-il, le dommage fait à la société. Ce dommage se décline en une série de délits et de crimes qui peuvent être regroupés en trois catégories. Ceux qui visent la destruction de la société ou de ses représentants, ceux qui attentent à la vie, au bien ou à l'honneur des individus, et ceux qui violent les lois définissant le bien public. Toute action qui ne s'inscrit pas dans l'une de ces catégories ne peut justifier qu'on en punisse l'auteur. Au regard de l'ensemble de ce corpus de règles, on conçoit la puissance novatrice du traité de Cesare Beccaria, à la fois de son temps, mais également encore aujourd'hui. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault accorde une place importante au traité des délits et des peines qui lui semble marquer à la fin du XVIIIe siècle un tournant théorique majeur, faisant passer la pénalité du châtiment corporel représenté par le supplice public et l'exécution capitale, devenu intolérable, un dispositif disciplinaire dont la prison sera la forme la plus aboutie. Il ne s'agit pas seulement d'une évolution des sensibilités qui rend le spectacle des afflictions moins supportable, il s'agit aussi et même surtout, selon Foucault, d'une nouvelle rationalité utilitariste qui vise à la prévention des crimes plutôt qu'à l'infliction d'une souffrance, en rendant le châtiment plus humain, en affirmant que les peines doivent être le moins douloureuses possible et le mieux proportionnées à l'acte commis, le traité ouvre la voie à une grande réforme de la pénalité, qui se trouve d'ailleurs facilitée par le fait que, tout au long du siècle, une double évolution s'est déjà produite. Dans un contexte d'amélioration des conditions matérielles du plus grand nombre, les crimes sont devenus moins violents et les châtiments moins sévères. Mais cette réforme ouvre la voie à ce que Michel Foucault appelle la punition généralisée, c'est-à-dire la possibilité de punir moins cruellement et plus justement, mais aussi plus largement. Ce phénomène, Cesare Beccaria l'anticipe lui-même dans une phrase qu'on néglige souvent de citer. À mesure que les peines seront plus douces, quand les prisons ne seront plus l'horrible séjour du désespoir et de la faim, quand la pitié et l'humanité pénétreront dans les cachots, lorsqu'enfin les exécuteurs impitoyables des rigueurs de la justice ouvriront leur cœur à la compassion, les lois pourront se contenter d'indices plus faibles pour ordonner l'emprisonnement. Punir mieux permettra donc de punir plus. Du reste, cette dilatation de la peine pourra prendre une forme variable en fonction de la situation économique du coupable. Ainsi, pour citer encore cet auteur, un vol commis sans violence ne devrait être puni que d'une peine pécuniaire, car il est juste que celui qui dérobe le bien soit dépouillé du sien. Mais pour tous ceux que la misère et le désespoir condamnent au vol pour assurer leur subsistance, une telle sanction n'a guère de sens, puisque pour payer leur amende, ils devraient commettre de nouveaux délits. Dès lors, pour cette classe d'hommes infortunés, à qui le droit de propriété, droit terrible, et qui n'est peut-être pas nécessaire, n'a laissé pour tout bien que l'existence, il faut concevoir un autre châtiment. Pour eux, la peine la plus naturelle du vol sera donc cette sorte d'esclavage qui est la seule qu'on puisse appeler juste, c'est-à-dire l'esclavage temporaire, qui rend la société maîtresse absolue de la personne et du travail du coupable. En somme, on le voit, en cas de vol, l'amende pour les riches, la prison pour les pauvres. Une distribution de la punition qui vaut encore dans la période contemporaine. L'adoucissement des peines, dont on crédite l'esprit des Lumières, présente ainsi une face plus sombre. Il faut du reste se souvenir qu'à l'époque où se mettent en place en Europe les réformes pénales, les supplices étaient devenus rares, tout comme les exécutions. L'effroyable écartèlement de Damien, accusé de tentative de régicide, que Michel Foucault semble prendre tant de plaisir à raconter avec un luxe de détails dont il fait le dernier grand moment de l'ancien régime pénal, était en réalité tout à fait exceptionnel, comme l'a montré l'historien néerlandais Peter Spierenburg. Quant aux condamnations à la peine capitale, leur proportion dans les arrêts criminels est divisée par 3 entre la première et la seconde moitié du XVIIIe siècle, selon les analyses de l'historien français Jean-Claude Farcy. On a donc remplacé des châtiments corporels parfois spectaculaires et terrifiants, certes, mais inhabituels, par des peines d'emprisonnement dont la modération et la modulation ont permis qu'on en fasse un usage bien plus considérable, sans d'ailleurs que soit supprimée la peine de mort. Mais compte tenu de l'état des établissements pénitentiaires et de la rigueur de leur discipline, l'indignité de l'incarcération sera limitée pour l'essentiel aux classes populaires considérées comme dangereuses, c'est-à-dire aux condamnés de droit commun qui forment l'essentiel de la population carcérale au XIXe siècle, tel que l'a étudié Michel Perrault. Double effet de la réforme pénale, donc, qui étend et différencie le domaine de la peine dans lequel Michel Foucault voit son véritable objectif, à savoir, je le cite, « d'établir une nouvelle économie du pouvoir de châtier, d'en assurer une meilleure distribution, de faire qu'il ne soit ni trop concentré en quelques points privilégiés, ni trop partagé entre des instances qui s'opposent, qu'il soit réparti en circuits homogènes, susceptibles de s'exercer partout, de façon continue et jusqu'au grain le plus fin du corps social. » On peut certes discuter cette analyse assez monolithique et penser qu'il s'agit simplement d'implications logiques découlant d'un choix de pondération et de gradation des peines plutôt qu'une, d'un véritable objectif suggérant un dessein caché. Il n'en reste pas moins qu'au-delà des valeurs de justice et de mansuétude et des principes de défense du bien public et de l'état de droit qui le fondent, le projet de Cesare Beccaria est porteur, à travers la peine de prison, d'un double potentiel d'extension et de différenciation des châtiments, et c'est à quoi je voudrais consacrer la suite de ce propos. L'emprisonnement apparaît pour la première fois dans l'échelle des peines en France dans le Code pénal de 1791. L'article 1er de la première partie, qui a pour titre « Des condamnations », indique « Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le jury sont la peine de mort, les fers, la réclusion, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan. » Chacune d'elles fait l'objet de précisions, ainsi la peine de mort est une simple privation de la vie sans qu'il puisse être jamais exercé aucune torture. Les condamnés aux fers sont employés à des travaux forcés au profit de l'État, qui correspondent à des ouvrages pénibles, qui sont rendus encore plus éprouvants par le boulet qui est attaché avec une chaîne de fer. Pour les femmes et pour les filles, cette peine est remplacée par une réclusion dans une maison de force. La gêne consiste en un isolement total dans un lieu éclairé, sans fer ni lien, avec un travail de son choix. La détention consiste en un enfermement au cours duquel les condamnés pourront, à leur choix, travailler ensemble ou séparément. La déportation s'applique au repris de justice pour crime dès la première récidive et pour le reste de sa vie. La dégradation civique s'accompagne d'une mise au carcan au milieu de la place publique où le condamné déchu de ses droits sera pendant 2 heures exposé au regard du peuple. D'une manière générale, du reste, quiconque aura été condamné à une des peines des fers, de la réclusion, de la gêne, de la détention, sera conduit sur la place publique de la ville et attaché à un poteau placé sur l'échafaud avec, je cite toujours, inscrit au-dessus de sa tête sur un écriteau en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui. Le nombre d'heures d'exposition dépend de la peine qui a été décidée. Élément important, les peines des fers et de la gêne ne peuvent, je cite, « en aucun cas être perpétuelles, tandis que la durée de la détention ne pourra excéder 6 années ». La deuxième partie du Code des crimes et leur punition établit une correspondance très détaillée entre et d'une grande sévérité entre les actes commis et les peines prescrites. On retrouve ainsi dans ce code pénal de 1791 plusieurs des grands principes de la pensée réformiste exprimés 27 ans plus tôt par Cesare Beccaria, dont je parlais précédemment, c'est-à-dire la détermination des peines par la loi, l'établissement d'une échelle de sévérité, la suppression des supplices, la publicité des jugements, la valeur du travail, dont on notera qu'il s'accompagne d'une formule étonnamment libérale, à leur choix. On constate cependant le maintien de la peine capitale, malgré la recommandation de son abolition dans un rapport présenté à l'Assemblée nationale constituante. Quant aux peines de fer, qui attachent un boulet au pied du condamné, et de la gêne qu'il maintient à l'isolement total, il est difficile d'y voir le signe d'une clémence particulière du législateur. On est loin d'un adoucissement des peines. Le code pénal napoléonien de 1810 ajoutera encore à l'inflexibilité et à la cruauté de la loi. Si la gêne est supprimée, certains supplices, comme l'amputation de la main droite pour les parricides avant leur exécution, sont rétablis, et la flétrissure consistant en une marque en fer rouge est restaurée, tandis que les peines de réclusion et de travaux forcés, nouveau nom donné au fer, peuvent être infligées désormais à perpétuité. C'est seulement sous la monarchie de Juillet que supplices et flétrissures seront supprimés. Au-delà de ces vicissitudes législatives, la détention qui est introduite dans le code pénal adopté par l'Assemblée nationale législative en 1791 correspond à une innovation cruciale. L'emprisonnement punitif devient une sanction ordinaire dont l'empire s'étendra progressivement jusqu'à devenir aujourd'hui la peine de référence. Avant cette date, en effet, l'incarcération avait une vocation essentiellement préventive. Elle visait à éviter que le prévenu ne se présentât pas devant le juge. Dans son traité de justice criminelle en France de 1771, Daniel Jousse écrivait « La prison n'est pas donnée comme peine, mais pour la garde des criminels ». On peut donc dire que juridiquement et historiquement, la détention provisoire a précédé la détention pénale. Certes, l'emprisonnement punitif n'était pas totalement absent des pratiques d'Ancien Régime, puisqu'il pouvait servir en lieu d'amende pour les condamnés insolvables, ou bien à la place d'une peine de galère jugée trop cruelle, ou encore pour le châtiment des femmes détenues dans les maisons de force. Mais pour l'essentiel, l'enfermement concernait les populations indésirables, plutôt que délinquantes ou criminelles, qu'il s'agisse de mendiants, d'invalides, de vagabonds, de prostituées, d'orphelins, qu'on plaçait dans des hôtels-dieu et des ateliers de charité. À la fin du XVIIIe siècle, on assiste bien à une naissance de la prison, selon la formule de Michel Foucault, qu'il faut toutefois entendre plus exactement comme naissance de la prison à vocation punitive. Avec cette innovation, écrit-il, les réformateurs pensent donner au pouvoir de punir un instrument économique efficace, généralisable, dans tout le corps social, susceptible de coder tous les comportements et par conséquent de réduire tout le domaine diffus des illégalismes. Donc là où les peines cruelles et infamantes s'appliquaient de manière arbitraire et occasionnelle, l'enfermement, théoriquement sans violence physique, peut étendre les sanctions et les différencier. Il permet de punir beaucoup plus exhaustivement les délits, même mineurs, et il permet de cibler les catégories de population à l'égard desquelles on veut se montrer plus sévère. Censé adoucir les peines, ce qu'elle n'a d'ailleurs guère fait comme vous venez de le voir, la prison en a rendu possible la multiplication en fonction des époques. Le législateur s'étant plus ou moins emparé de cette libéralité, alternant des moments de raidissement, comme dans la période napoléonienne, et des moments d'atténuation, comme sous la monarchie de Juillet, les sociétés contemporaines se sont montrées fortement enclines à en user. Libéralité, mais aussi libéralisme, au sens économique. Comme l'analysent les historiens Jacques Guy Petit, Claude Faugeron et Michel Pierre, dans leur Histoire des prisons en France, l'invention de la détention s'accompagne d'une privatisation des prisons. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, la France ne dispose quasiment pas d'établissements appropriés pour accueillir les détenus. Les révolutionnaires doivent se contenter de les enfermer dans d'anciens lieux de confinement, comme les dépôts de mendicité, et dans les bâtiments qui ont été confisqués à l'Église, comme à Clairvaux et à Fontevraud. Sous le Consulat et l'Empire se développent ensuite des manufactures carcérales sur le modèle des workhouses britanniques, dans lesquelles le labeur des prisonniers est censé remplir un double objectif de rentabilité économique et de réforme morale. Puis après la Restauration, les maisons centrales sont confiées à des entreprises privées dans le cadre de contrats entre l'État et de grands industriels qui bénéficient ainsi d'une main-d'œuvre captive, docile, surveillée gratuitement par les gardiens et rémunérée à un niveau deux fois moindre que le sont les ouvriers libres. Tout au long du XIXe siècle, les rapports se multiplient d'autorités intellectuelles comme Alexis de Tocqueville ou Charles Lucas, dénonçant la toute-puissance des employeurs, les tricheries dans les comptabilités et la dégradation de l'état des prisons. Parallèlement, sous l'effet de l'évolution du code pénal qui sanctionne de plus en plus durement, mais également au gré des variations de la situation du pays, selon une double logique économique, les atteintes aux biens augmentant avec le prix des céréales, et politique, la répression s'abattant sur les opposants lors des reprises en main autoritaires, la population carcérale donc s'accroît, doublant même entre 1800 et 1851, avec cependant des effets différents de ces deux logiques économiques et politiques. Alors que lors de la Restauration, pendant le Second Empire et au moment de la Commune de Paris, les soubresauts politiques se manifestent par des poussées démographiques dans les prisons, brutales mais transitoires, les réalités économiques, elles, plus permanentes, se traduisent par des phénomènes structurels, les peines étant particulièrement lourdes contre les délits commis par les pauvres, soit en moyenne 3 ans d'emprisonnement pour le plus commun, à savoir le vol simple. Lorsque les emprisonnements d'activistes refluent donc, restent dans les établissements pénitentiaires les membres des classes populaires et même leur segment le plus défavorisé, celui des travailleurs journaliers. À la misère des prisonniers correspond d'ailleurs la misère des prisons. La ration alimentaire quotidienne est de 750 grammes de pain et d'un demi-litre de bouillon agrémenté de quelques dizaines de grammes de pommes de terre ou de légumes secs et dans certaines maisons centrales, de graisses avariées. La malnutrition est générale et les maladies fréquentes, à commencer par la typhoïde et la tuberculose. La mortalité est élevée et parmi les hommes condamnés à des peines de 3 ans d'emprisonnement, 1 sur 6 meurt avant la fin de son séjour carcéral. Quant à la discipline, au sein des établissements, elle est sévère, souvent même violente et cruelle. Les gardiens au début du siècle, puis les directeurs après l'instauration du prétoire en 1842, disposent d'un pouvoir largement discrétionnaire de sanctionner des infractions, dont l'une des plus communes est la violation de l'interdiction de parler, qui a été instituée en 1839. Les peines de cachot n'ont souvent pas de durée limitée. Les châtiments s'apparentent pour certains à des supplices, comme le séjour dans une cellule glacée ou le piton, consistant à garrotter le détenu contre un mur. En somme, dès l'origine, la mise en œuvre de l'adoucissement des peines imaginées par les philosophes et les juristes réformistes a été un trompe-l'œil. La peine de mort n'a pas disparu, les violences et les tortures n'ont pas été supprimées, hormis peut-être les plus cruelles. De la place publique où elles étaient exposées, elles ont été transportées dans des cachots où il est possible de les soustraire au regard. Au fond, le plus grand changement introduit par la prison a été, comme je l'ai dit, la possibilité de multiplier les peines en les différenciant. L'extension de la peine n'est pas seulement une question de multiplication, elle est aussi une affaire d'addition, plus précisément d'addition de souffrance. Il ne leur manque que la liberté, disaient des détenus, beaucoup de membres du personnel pénitentiaire dans la maison d'arrêt où j'ai conduit ma recherche. Leitmotiv, qui semblait faire écho à la définition même de la peine d'emprisonnement comme peine privative de liberté. Des surveillants allaient jusqu'à assimiler les allers-retours des récidivistes à des séjours, je cite, en colonie de vacances. Un directeur adjoint considérait que les prisonniers bénéficiaient du confort, de la nourriture et du linge que l'établissement leur fournissait et, ajoutait-il, même de la sécurité. Le lieu commun était qu'ils étaient, je cite, « mieux ici que chez eux ». Ce mythe de la captivité heureuse, qui semble offrir un démenti au souci de Cesare Beccaria de faire de la prison un lieu redoutable, susceptible de dissuader les potentiels criminels, est remarquable au regard de ce qu'est la réalité du monde carcéral auquel ces agents sont confrontés au quotidien. L'indifférence cognitive qu'ils semblent manifester, c'est-à-dire l'ignorance de cette réalité, non seulement au sens passif de ne pas connaître, mais également au sens actif de ne pas vouloir connaître, relève certainement pour partie de ce type de défense qu'ont décrit les psychologues du travail pour de nombreux métiers et qui sont autant de manières de faire face à des expériences pénibles dans le milieu professionnel. Selon Christophe Dejour, un des fondateurs de la psychodynamique du travail, ce qu'il appelle des stratégies collectives de défense permettent de lutter symboliquement contre ce qu'il nomme la souffrance au travail. Pour le personnel pénitentiaire, donc, dont les conditions de travail sont difficiles et qui a une conscience souvent douloureuse de la mauvaise image de leur métier dans le public, il est probable que ce mécanisme joue d'une part en neutralisant souvent l'émotion qu'ils peuvent avoir face à la détresse de certains détenus, dont ils disent qu'ils, je cite, « font du cinéma », et d'autre part en justifiant parfois une agressivité que trahit l'admiration de certains pour la dureté du système états-unien, entrevue à la télévision, dont il me disait qu'il ne laisse pas les prisonniers faire ce qu'ils veulent. Toutes et tous ne partageaient cependant pas cette vision que je viens de décrire. Certaines et certains, dans le personnel, faisaient preuve de sensibilité à l'égard des épreuves que traversaient les prévenus et les condamnés, leur témoignant même de la sollicitude. J'ai le souvenir d'une lieutenante qui, une fois les retours de promenade de l'après-midi effectués, était allée voir un détenu d'origine maghrébine pour le réconforter, car il venait d'apprendre le décès brutal de sa jeune nièce. Celles et ceux qui, comme cette officière, étaient attentifs à l'expérience des prisonniers n'auraient assurément jamais affirmé qu'il ne leur manquait que la liberté. Bien qu'au fil des près de 2 siècles et demi de son existence, la prison ait beaucoup évolué, que l'hygiène et l'alimentation se soient améliorées, que les tortures physiques y aient disparu, que des droits fondamentaux aient été reconnus par rapport à ce que je décrivais précédemment au XIXe siècle, il est notable qu'une continuité existe dans les souffrances qu'elle induit. Il y a 70 ans, le sociologue états-unien Gresham Sykes commençait l'ethnographie d'un établissement pénitentiaire du New Jersey qu'il publia 4 ans plus tard et qui devint l'un des classiques du genre, The Society of Captives, la société des captifs. Il écrit, je cite, que les privations et les frustrations de la vie en prison peuvent être considérées pour partie comme des châtiments que la société inflige délibérément aux condamnés pour avoir violé la loi et pour partie comme un effet collatéral non planifié du confinement de grands groupes pour de longues périodes de temps. Et en fait, ces deux aspects qu'il distingue, volontaires et involontaires, ne s'excluent nullement. Et l'effet collatéral du confinement, ce qui est involontaire, procède bien de la conception doloriste, qui elle est volontaire, du châtiment. Les modalités de l'incarcération sont destinées à faire souffrir. Par définition, punir, c'est en effet, comme je l'ai dit au début de ce cours, infliger une souffrance. Pour Gresham Sykes, les privations et les frustrations sont du reste des agressions contre la personnalité du point de vue de l'estime de soi et du sentiment de sécurité qui sont certes moins faciles à voir que l'administration sadique de coups, la présence de fer sur le sol ou la marche forcée sur un moulin de discipline, mais dont les effets de destruction du psychisme ne sont pas moindres que les conséquences des souffrances corporelles. Fin de citation. Il faut donc être attentif à ces manifestations moins visibles mais non moins délétères. La liste et la description qu'il en donne ressemblent étonnamment à celles que j'ai moi-même proposées dans l'enquête que j'avais conduite dans une maison d'arrêt française plus d'un demi-siècle plus tard. La privation de liberté est la plus évidente, mais elle est bien plus que ce qu'elle semble être. Car elle ne se manifeste pas seulement par l'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire duquel on ne peut sortir pendant la durée de sa peine, hormis de brèves permissions et en cas d'aménagement, tel le placement extérieur ou la libération conditionnelle, mais elle est aussi un confinement dans le confinement. En France, c'est particulièrement le cas dans les maisons d'arrêt, où les détenus sont en principe enfermés dans leurs cellules 22 heures sur 24, pour autant qu'ils décident de tirer parti des 2 heures de promenade, l'une le matin, l'autre l'après-midi, ce que certains ne font pas, soit parce qu'ils ont peur de la violence dont ils peuvent faire les frais, soit parce qu'ils ressentent le besoin de se retrouver seuls un moment pendant que leurs codétenus sont à l'extérieur. Tel est l'emploi du temps ordinaire si leur séjour est seulement de quelques mois. Au-delà, ils peuvent avoir accès à un travail, un stage, un enseignement ou une activité sportive. Toutes occupations pour lesquelles les listes d'attente sont longues, mais qui permettent de sortir quelques heures par jour pour les exercer. Tandis que, sauf exception, une personne condamnée à une courte peine n'aura accès à aucune d'entre elles. Mais pour tous les détenus, le confinement est total entre 18h, moment des dernières réintégrations, et 8h le lendemain matin, moment des douches, un jour sur deux, soit un enfermement ininterrompu de 14h, correspondant de surcroît à un temps propice aux crises d'angoisse, aux périodes d'insomnie, aux tentatives de suicide, aux recrudescences des douleurs. L'impression d'enfermement a été aggravée par l'ajout au traditionnel barreau d'un caillebotis à texture serrée de caoutchouc noir qui obscurcit la cellule, officiellement pour éviter que les détenus jettent par la fenêtre des détritus qui s'accumulent dans les parties extérieures rarement nettoyées et qu'ils échangent entre eux des objets d'une fenêtre à l'autre par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des yo-yo, c'est-à-dire des petits paquets accrochés au bout d'une cordelette. Dans les cellules, le monde extérieur n'est dès lors plus vu que sous la forme de petits carrés faiblement lumineux. Des camarades qui sortent de prison, parfois, ils passent des heures devant une fenêtre à regarder le ciel, commentait un détenu. Mais la privation de liberté peut être encore plus radicale dans le cas de sanctions avec placement dans une cellule disciplinaire dont le nom vernaculaire est le mitard. L'espace y est restreint à 5 ou 6 mètres carrés, la lumière du dehors filtre à peine, les lieux sont souvent sales, malodorants, étouffants en été, glacés en hiver, le mobilier fixé au sol est réduit à sa plus simple expression, les activités y sont inexistantes et l'heure de promenade pendant laquelle le prisonnier est seul a lieu dans un local fermé, de petite taille, sans guère de possibilité d'exercice physique. L'extrême dépouillement et la répugnante dégradation des cellules participent du rabaissement de la personne ainsi enfermée. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses quartiers disciplinaires. Deux situations particulières rendent cependant la privation de liberté en prison moins éprouvante. D'une part, les établissements pour peine où sont détenues des personnes qui ont été condamnées à un emprisonnement supérieur à 2 ans, en principe, ont en général des conditions plus favorables, au sens où beaucoup disposent de la clé de leur cellule, ce qui leur permet de se déplacer dans la prison et de vaquer à leurs occupations. Et d'autre part, certaines maisons d'arrêt et certains centres de détention ont adopté le dit module de respect que l'administration pénitentiaire espagnole à développer dans tous ces établissements et qui donne aux détenus concernés l'accès à des cellules ouvertes dans la journée. L'objectif étant d'apaiser les relations au sein de la détention tout en faisant évoluer le métier de surveillant. Après avoir expliqué leur motivation pour en justifier la demande et fait l'objet d'une évaluation par le personnel, les bénéficiaires de cette mesure sont tenus à une observance stricte des règles concernant le comportement, la tenue, l'hygiène, l'entretien de la cellule et la détermination d'un programme d'activité. En fonction de leur bonne ou mauvaise pratique, ils gagnent ou perdent des points, pouvant même être exclus du programme. Le module de respect offre ainsi aux prisonniers des conditions d'enfermement beaucoup moins contraignantes, mais permet aussi à l'administration de mettre en œuvre une nouvelle forme de discipline. La surpopulation carcérale rend le confinement particulièrement difficile à supporter car elle implique une privation d'intimité. Dans la mesure où dans les établissements pour peine, chaque détenu dispose seul d'une cellule, elle ne concerne que les maisons d'arrêt. Où les prisonniers sont 2 et de plus en plus souvent 3 dans 9 mètres carrés, avec 2 lits superposés, un matelas au sol, le reste de l'espace étant occupé, il faudrait dire obstrué, par une table, des chaises, une armoire, un lavabo, surmonté d'un miroir, avec un coin de toilette dont la porte battante est souvent branlante, voire absente. Le manque d'espace et de temps pour soi est une épreuve d'autant plus grande qu'on s'entend mal avec le ou les codétenus que l'on s'est vu imposer en raison de différences de tempérament ou d'habitude. Des rapports de force se créent des disputes se produisent, des peurs se développent, des violences sexuelles surviennent parfois. 9 mètres carrés à deux, me disait un jeune détenu basque. Même si c'est votre meilleur ami, vous finissez par plus le supporter et lui vous supporte plus non plus. Et il anticipait que son procès n'aurait pas lieu avant plusieurs années. Pour les prisonniers en détention provisoire, comme c'était son cas, dont le séjour en maison d'arrêt peut en effet être très long, la promiscuité devient vite intolérable. Certains renoncent à leur sortie en promenade pour pouvoir faire leurs besoins sans subir l'embarras de regards et de commentaires, ou même pour lire au calme sans devoir supporter à longueur de journée des émissions insipides de télévision. Certains protestent jusqu'à être sanctionnés et placés au quartier disciplinaire tant la cohabitation les incommode. Le moment des douches s'avère particulièrement délicat et c'est souvent dans ce contexte qu'ont lieu des altercations pouvant conduire à la commission disciplinaire. La prison induit également une privation de la vie affective et sexuelle. Les détenus sont séparés pendant des périodes plus ou moins longues et selon des modalités plus ou moins restrictives de leurs conjoints, de leurs enfants, de leur famille, de leurs amis. Un habitué des séjours carcéraux qui surjouait la virilité me confiait pourtant « C'est pendant le ramadan que c'est particulièrement difficile d'être seul, sans sa famille. Le soir, quand c'est l'heure de couper, je pleure. » Les visites mettent du temps à être établies pour des raisons d'autorisation et de disponibilité. Lorsque des instructions sont en cours, le juge peut décider de plus d'en interdire certaines, officiellement pour le bon déroulement de l'enquête, mais en réalité souvent pour exercer une pression supplémentaire sur le prévenu et le faire avouer son infraction ou fournir des informations sur ses complices. Des fois, je donnerais tout ce que j'ai pour passer un coup de fil, explique un homme en détention provisoire qui n'a pas le droit d'entrer en contact avec son épouse. C'est dur de ne pas pouvoir parler avec ma femme. Ça fait un an que je n'ai pas eu d'échange avec elle, mais je veux qu'au tribunal, on ne puisse pas dire que nous avons communiqué et que ça m'alourdisse ma peine. Pour ceux qui ont des enfants, ne pas les voir grandir est une souffrance singulière. Mais certains font eux-mêmes ce choix. Ça me fait plus de mal qu'autre chose de les voir tristes, reconnaît l'un d'entre eux. Je ne veux pas que ma fille me voie en prison, affirmait un autre. Il y a des parloirs père-enfant qui ont été institués dans certains établissements permettant des échanges précieux, mais peu de détenus peuvent en profiter faute de place. De même ont été créées des unités de vie familiale, appartements où pendant quelques heures, voire deux ou trois jours, les prisonniers peuvent être avec leurs conjointes et le cas échéant leurs enfants, mais elles demeurent rares. Dans ces conditions, la sexualité se limite souvent à la masturbation, à des relations pas toujours consenties avec d'autres détenus, ou parfois à une furtive interaction avec une compagne lors d'une visite qui échappe au regard des surveillants ou bénéficie de leur discrétion, pouvant donner lieu à la conception de ce qu'on appelle un bébé parloir. Mais la condition carcérale induit des frustrations plus profondes, et notamment la privation de dignité et d'autonomie. La toute-puissance du personnel met en effet à l'épreuve l'estime de soi et le pouvoir de décision. La prison, ça ne devrait pas être une privation de dignité, me disait un homme en attente de son procès depuis 2 ans et demi. C'est une humiliation permanente. Tout nous rabaisse, les fouilles, la douche. Ce sont en effet là deux situations où sont mises à l'épreuve la dignité et l'autonomie des prisonniers. Premièrement, les fouilles corporelles, dites intégrales, sont particulièrement attentatoires à la dignité et ont d'ailleurs fait l'objet de condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Elles permettent aux surveillants d'exercer, s'ils le veulent, une domination physique sur les détenus. Certains les ménagent en leur épargnant des positions les plus dégradantes, tandis que d'autres en abusent par des inspections inquisitrices ou par des plaisanteries grossières. Elles ont longtemps été réalisées de manière presque systématique à chaque entrée dans l'établissement, après chaque visite au parloir, avant chaque placement en cellule disciplinaire et d'une manière générale, selon le bon vouloir des agents. Le recours à cette pratique a certes été encadré par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui impose 3 principes. De nécessité, en cas de présomption d'infraction ou d'existence de risque, de proportionnalité, avec une adaptation aux circonstances, et de subsidiarité limitée au cas où d'autres méthodes de détection ne sont pas possibles. Mais Dans les années qui ont suivi le vote de cette loi, l'administration et les surveillants ont refusé de l'appliquer et même rappelé à l'ordre par des décisions du tribunal administratif, ont continué de l'ignorer jusqu'à ce que le Conseil d'État, sur requête de l'Observatoire international des prisons, contraigne la garde des Sceaux à intervenir, mais de nombreuses exceptions demeurent tolérées. Deuxièmement, les douches. Elles illustrent la manière dont l'autonomie des personnes est contestée jusque dans les prérogatives les plus élémentaires de la vie quotidienne. Dans la plupart des maisons d'arrêt, elles sont prises à l'extérieur de la cellule le matin au réveil, 3 jours par semaine. Elles deviennent souvent des moyens de pression exercés par certains surveillants. D'une part, lorsque le détenu encore endormi ne sort pas immédiatement de sa cellule après avoir été appelé, sa porte est refermée plus ou moins rapidement. Il aura dès lors beau implorer, il devra attendre 2 ou 3 jours supplémentaires pour se laver. D'autre part, au retour de promenade, notamment pendant des périodes de grande chaleur, les prisonniers dont les cellules deviennent étouffantes souhaitent souvent se rafraîchir et se nettoyer. Et tout dépend alors du bon vouloir de l'agent et de la relation qu'il entretient avec le requérant, auquel il pourra, de manière discrétionnaire, accorder une faveur ou au contraire opposer un refus. Les discriminations, souvent ostentatoires, qui en résultent, sont génératrices non seulement de frustration, mais également de violence qui aboutissent à des sanctions. Il y a enfin une privation plus troublante encore que les autres, c'est la privation du sens de la peine. On sait qu'une justification importante du châtiment est la signification qu'il a non seulement pour la société qui punit, mais aussi pour l'individu qui est puni. Ce sens, c'est la prise de conscience du délit commis qui conduit nombre de magistrats condamnés à l'emprisonnement au titre du bienfait supposé du choc de l'incarcération, comme ils le disent. Au-delà cependant de la souffrance causée par l'enfermement en tant que tel et par les conditions qui lui sont associées, qu'on imagine leur donner une leçon, il y a le travail social et moral qui est censé être conduit pour permettre aux prisonniers de sortir de prison, dit-on, meilleur que lorsqu'il y est entré. Or, tant du point de vue de la réinsertion sociale que de la réforme morale, il s'avère que l'univers carcéral ne remplit pas cette fonction. Il ne faudrait pas qu'il y ait tout ce temps perdu, se plaignait un prévenu. Il faudrait que ça serve à quelque chose, mais la prison, elle ne sert à rien. Dans les maisons d'arrêt, seul un détenu sur 4 ou sur 5 a un emploi, au demeurant sans intérêt, mal rémunéré, sans protection sociale. Les stages professionnels sont peu nombreux et mal adaptés. Les enseignements sont concentrés sur l'alphabétisation, les activités culturelles sont exceptionnelles, le sport est rationné. L'inactivité et l'ennui sont la règle. La peine pour le prisonnier est ainsi l'apprentissage qu'elle n'a pas de sens. Ou plutôt, pas d'autre sens qu'une forme de dévalorisation de la personne et de son existence, puisqu'on le condamne à perdre son temps et à apprendre à supporter l'insupportable. Privation donc de liberté, bien au-delà du simple enfermement entre les murs de la prison, mais aussi privation d'intimité, de vie affective et sexuelle, de dignité et d'autonomie, et paradoxalement, privation du sens même de la peine. Un détenu suffisamment apprécié par l'administration pour s'être vu confier un poste d'auxiliaire d'étage, c'est-à-dire chargé de certains travaux d'entretien et bénéficiant à ce titre d'une cellule un peu plus vaste qu'il occupait seul, me déclarait pourtant « Tous les moyens sont mis en œuvre pour détruire ce qui reste d'humain en nous. C'est un univers assez pervers, la prison, et qui très vite nous pervertit aussi. » Il est assurément difficile de ne pas établir un lien entre ce propos sur la destruction de l'humanité des détenus et la question du suicide en milieu carcéral. La France a en effet le taux de suicide en prison le plus élevé de son histoire et le plus élevé d'Europe. Alors, le plus élevé de son histoire, pas tout à fait en réalité, car si le taux a été multiplié par 18 en un demi-siècle, pour se stabiliser, il a relativement diminué depuis 2 décennies pour se stabiliser autour de 18 pour 10 000. Et le plus élevé d'Europe, pas tout à fait non plus, car s'il est 2 fois plus qu'en Angleterre, en Allemagne et en Italie, 4 fois plus qu'en Espagne et en Irlande, il semble qu'on se donne encore plus la mort dans les établissements pénitentiaires de Lituanie. On affirme souvent que c'est la conséquence du fait que les Français se suicident plus que d'autres Européens à l'extérieur. C'est vrai, mais en France, on se donne la mort 9 fois plus en prison qu'à l'extérieur, quand l'excès de suicide en milieu carcéral est d'environ 6 fois pour l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. Alors à quoi cet excès est-il dû? faut distinguer deux dimensions. Du côté de la chaîne pénale, on observe que le taux de suicide augmente parallèlement à la progression de la population détenue, que parmi les personnes écrouées, il est le double chez celles qui sont hébergées, c'est-à-dire enfermées en prison, par rapport à celles qui ne le sont pas, et qu'il est trois fois plus élevé chez les prévenus, donc en attente de jugement, que chez les condamnés. La première explication des suicides en prison se situe donc du côté de la chaîne pénale, c'est la banalisation des condamnations à l'emprisonnement ferme qui est largement distribuée par les magistrats, comme nous n'avons cessé de le voir. Du côté maintenant de la condition carcérale, on constate que le quart des suicides ont lieu dans les deux premiers mois, ce qui souligne les effets du dit choc de l'incarcération. Et par ailleurs, le quartier disciplinaire multiplie le taux de suicide par 10 par rapport aux cellules ordinaires, ce qui révèle là l'impact tant physique que moral de ce lieu sordide et avilissant. La seconde explication des suicides en prison se trouve du côté de la réalité pénitentiaire, c'est la prison elle-même, pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente et ce qu'elle autorise comme violence institutionnelle. Mais l'extension de la peine n'est pas seulement de privation en privation, une addition de souffrance à la souffrance des détenus. Elle est aussi une dissémination par cercle concentrique de l'affliction. Elle touche les conjoints, les enfants, les parents, les proches, les quartiers. Au-delà des coupables, elle affecte par contamination un ensemble de personnes innocentes dont le seul tort est d'avoir une proximité conjugale ou familiale ou même spatiale avec une ou plusieurs personnes condamnées, notamment lorsqu'elles le sont à une peine d'emprisonnement. Une chose n'est jamais prise en compte par les magistrats lorsqu'ils prononcent une sentence, le coût que représente pour la compagne notamment les mois ou les années de prison de celui qui est condamné. C'est une peine invisible qui est infligée, indue le plus souvent, inévitable probablement, mais surtout jamais considérée pour ce qu'elle est, une double injustice consistant à faire payer à une personne le prix d'une faute qu'elle n'a pas commise et même à l'associer implicitement à la réprobation morale pesant sur son conjoint. C'est ce qu'a montré la sociologue états-unienne Megan Comfort dans un ouvrage intitulé « Doing Time Together », « Faire de la prison ensemble ». Elle a en effet conduit une recherche pendant plusieurs années à la prison de San Quentin, la plus ancienne de Californie et l'une des plus grandes des États-Unis, avec environ 6 000 hommes détenus, en s'attachant à l'expérience des femmes qui venaient visiter leurs compagnons et aux épreuves qu'on leur faisait traverser. Pour rendre compte de cette expérience et de ces épreuves, elle adapte un concept proposé par le sociologue états-unien Donald Clemmer, dont le livre « The Prison Community », la prison comme communauté, publié en 1940, est considéré comme la première ethnographie d'un établissement pénitentiaire aux États-Unis. Ce concept, c'est celui de prisonisation, prisonisation, c'est-à-dire la production d'une culture spécifique à l'univers carcéral et d'autant plus prégnante que le séjour est long, la personnalité fragile, l'intégration dans un groupe de détenus forte et les liens avec des personnes à l'extérieur ténues. Pour Megan Comfort, il existe ce qu'elle appelle une prisonnisation secondaire des femmes qui deviennent de fait des quasi-détenues, comme elle le dit. Rendre visite à leurs compagnons est en effet une expérience singulière qui s'apparente entre le moment où elles entrent dans l'établissement pénitentiaire et le moment où elles en sortent à celle des prisonniers par la manière dont elles sont traitées, pensées comme des coupables, les contraintes vestimentaires qui leur sont imposées, pas de décolleté, pas de jupe ou de robe courte, pas de vêtements de couleur proche de celles des détenus ou des surveillants, les objets qu'elles ont le droit d'avoir avec elles, pas de cigarettes, pas de lunettes de soleil, pas de papier ou de stylo, pas de billets de plus d'$1. Elles sont comme moralement souillées par l'infraction commise par leur mari ou leur ami et sont considérées par le personnel avec un mélange de suspicion et de mépris qui autorise le ton agressif et des pratiques discriminatoires. La maison d'arrêt où j'ai réalisé mon enquête se trouve, comme c'est aujourd'hui presque toujours le cas, en tout cas des nouvelles prisons, en dehors de l'agglomération. Dans la mesure où les familles des détenus sont souvent de milieux modestes, leurs membres doivent emprunter les transports en commun, dont très peu ont une desserte près de la prison. Près de la moitié des visiteurs vivent à plus de 50 km de cette prison et doivent prendre le train et le bus en s'assurant que la connexion laisse un temps suffisant et en espérant qu'il n'y aura pas de problème sur le trajet, car une fois l'heure de l'entrée dans l'établissement passée, la visite est annulée. Ce sont ainsi plusieurs heures passées dans les transports en commun avec l'inquiétude d'un contretemps qui entraînerait un parloir fantôme au cours duquel le détenu attend une visite qu'il espérait mais qui n'a pas lieu sans qu'il sache si la raison de l'absence est un retard, un accident, une maladie, un oubli, une rupture. Mais à l'inverse, la personne peut arriver au parloir et ne pas trouver le détenu qu'elle venait rencontrer du fait d'une fâcherie ou d'une sanction disciplinaire. De surcroît, dans le cas des parloirs père-enfant, la mère qui a amené ce dernier, l'enfant, reste dans le petit bâtiment d'accueil des familles à l'extérieur de la prison, à attendre pendant plus de 2 heures qu'on lui rende sa progéniture pour repartir sans même avoir vu son compagnon. Dans la majorité des parloirs, la trentaine de minutes passées avec le détenu, pour laquelle il faut arriver au moins une demi-heure en avance et rester encore ensuite 1 heure à attendre pendant que les prisonniers sont fouillés afin de s'assurer qu'aucun objet illicite n'a été introduit, représente souvent une journée de déplacement et pour les personnes ayant un emploi, une journée de travail perdue qui s'ajoute aux frais pour se rendre à la prison, lesquels s'élèvent à plus de 50 euros par mois pour les 2/3 des visiteurs. Pour certains détenus, basques notamment, la politique pénitentiaire de dispersion conduit à des incarcérations souvent à plus de 500 km de chez eux, rendant les déplacements des proches longs et coûteux, car il faut prévoir des nuits d'hôtel en plus des frais de transport. Mais les complications de la vie des conjointes vont bien au-delà des parloirs. C'est souvent la perte de revenus du compagnon qui ne travaille plus, c'est le poids de toutes les responsabilités domestiques et parentales qui ne sont plus partagées, c'est souvent la nécessité de rendre un logement dont on ne peut plus payer le loyer et de devoir alors retourner chez ses parents, souvent avec ses enfants. C'est la charge mentale qui s'ajoute à l'épreuve affective et au bouleversement matériel. Si les compagnes sont les plus directement touchées par le contre-coup de l'incarcération, c'est aussi le cas des enfants, privés de la relation avec leur père, livrés à eux-mêmes en raison des horaires de travail de leur mère, sujets à des dépressions se traduisant par des difficultés scolaires. Lorsque les détenus sont des hommes jeunes, célibataires, résidant chez leurs parents, ces derniers, parfois âgés, parfois peu autonomes, subissent également les conséquences émotionnelles, économiques et sociales de la peine prononcée. Mais dans la mesure où les lieux de résidence habituels des condamnés ont une distribution spatiale inégale, avec une forte concentration dans les quartiers populaires et notamment les cités d'habitat social, le retentissement de la soustraction d'hommes jeunes peut se faire sentir aussi sur la communauté. C'est ce qu'on observe aux États-Unis, où, comme l'analyse le criminologue de l'université de Rutgers, Todd Clear, dans un livre intitulé « Imprisoning Communities », emprisonner les communautés, le fait qu'un homme noir né en 1981 sur 3 et un homme noir né en 2001 sur 5 soit amené à connaître la prison au cours de sa vie, a déstabilisé des quartiers entiers, générant du chômage, aggravant la pauvreté des habitants, affaiblissant le contrôle social exercé par les adultes, accentuant la dégradation de l'environnement, pouvant même, par voie de conséquence, accroître non seulement les inégalités, mais aussi la criminalité. En France, où les taux d'incarcération sont aujourd'hui 5 fois plus faibles, les effets structurels sont moins visibles. Mais ils existent aussi. Ils ne sont pourtant jamais pris en compte, on n'entend jamais les magistrats dans les tribunaux correctionnels ou les politiciens dans les débats publics s'interroger sur cette affliction qui, par onde concentrique, frappe des personnes ou des groupes pour des délits ou des crimes que leurs proches ou leurs membres ont commis. Pour caractériser ce phénomène, on peut parler de châtiment vicariant, c'est-à-dire de châtiment affectant des personnes ou des groupes par contamination de celui infligé au condamné. Si la question de la propagation de la faute et de sa punition ne pénètre pas l'univers de la justice et les cercles du pouvoir, c'est qu'elle concerne essentiellement les classes populaires et les minorités ethno-raciales. On ne peut en effet pas comprendre la faculté de punir si on ne l'appréhende pas du point de vue de sa distribution inégale, et c'est ce que nous allons voir dans la leçon suivante. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.